le tour d'Alain Berthoz, qui est donc lui aussi professeur au Collège de France et qui a donné comme titre « Base neurale de la conscience de soi, de la relation avec autrui et de l'empathie ». Et donc la transition est parfaite.
Oui, merci.
Ce que nous venons d'entendre.
Je voudrais remercier Madame Surprenant et Antoine Compagnon de m'avoir lancé ce défi de discuter sur les relations entre... Il y a au moins une place là, il y a deux places là, messieurs, dames. Il y a celle que j'ai laissée vide et il y en a une deuxième là. Il y en a une... Voilà. Donc merci de m'avoir lancé ce défi de discuter sur les relations du Collège de France avec Freud. Je suis totalement incompétent en matière de psychanalyse. Mais j'ai relu un peu Merleau-Ponty puisque son œuvre m'intéresse et est directement liée aussi au travail scientifique que je fais. Et Merleau-Ponty disait « L'essentiel du freudisme n'est pas tant d'avoir montré qu'il y a sous les apparences une réalité tout autre, mais que l'analyse d'une conduite y trouve plusieurs couches de signification, qu'elles ont toutes leur vérité, que la pluralité des interprétations possibles est l'expression discursive d'une vie mixte où chaque choix a toujours plusieurs sens » sans qu'on puisse dire que l'un d'eux est le seul vrai. C'est-à-dire que dans ce texte, déjà, Merleau-Ponty rend hommage à la pensée de Freud, mais en même temps se positionne. Et sur cette question de la pluralité, je signale que nous avons, avec Carlo Ossola et Brian Stock, fait il y a quelque temps un colloque au Collège de France sur justement la pluralité interprétative qui est publiée aux éditions électroniques du Collège. Parmi les allusions que Merleau-Ponty fait à l'œuvre de Freud, j'ai trouvé dans une lecture bien sûr trop rapide, qu'il s'intéresse particulièrement, et je sais que cela sera discuté de façon savante demain, on trouve qu'il s'intéresse particulièrement au rôle du corps propre et du schéma corporel dans la conscience de soi et la constitution du moi freudien. Je vous rappelle que Freud écrivait « Il est facile d'apercevoir que le moi est la partie du ça, modifiée sous l'influence directe du monde extérieur, par l'intermédiaire du PSC, c'est-à-dire du préconscient et du conscient, en quelque sorte une continuation de la différence de surface. » Donc cette question du corps, en quelque sorte, sur lequel je vais m'étendre aujourd'hui, j'ai choisi ce thème, est quelque part dans ce débat qui a eu lieu entre Merleau-Ponty et l'œuvre de Freud. Un autre petit texte qui mentionne ce dialogue, Merleau-Ponty écrit « Freud distingue une conscience qui est savoir d'une version fausse et un inconscient qui est savoir de la vérité. Pour moi, dit-il, même au niveau conscient, je mettrai en contact avec la vérité et par suite cette vérité ne serait dans un inconscient refoulé hors de toute prise, mais il s'agit d'un contact perceptif qui n'est pas savoir. » C'est-à-dire qu'encore une fois, il discute l'exclusivité en quelque sorte de cette composante du savoir pour remettre le corps en acte, comme il dit, au centre de ces questions. Et il privilégie aussi, dans ce texte, le schéma corporel. Il écrit « Les perceptions des choses sensibles sont corrélatives du schéma corporel. Par exemple, je sens l'horizontale, la verticale du lieu, etc. » Donc il y a là un débat, et mon exposé portera sur ce débat en quelques points, encore une fois, comme l'a fait Jean-Pierre, avec beaucoup de modestie, puisque nous sommes là aux frontières de discipline, et nous pouvons simplement, grâce à ceux qui nous ont invités à le faire, engager des questions de discussion. Premièrement, je voudrais discuter le fait que la conscience de soi au cours de la vie suppose d'abord l'identité, c'est-à-dire que l'identité suppose aussi la permanence et la cohérence du soi, que je vais discuter. Celle-ci est fondée sur les bases neurales du schéma corporel et du corps propre, c'est la première idée que je vais essayer de développer. La deuxième idée et que l'identité n'est pas basée sur ce que le langage déclare que je suis, mais sur l'action que j'ai faite, et depuis le sens du mouvement, vous savez que j'ai promu le fait que, comme disait Faust, au début n'est pas le verbe, au début n'est pas la force, mais au début est l'acte. L'identité n'est donc pas basée sur ce que le langage déclare que je suis, mais sur l'action que j'ai faite, c'est-à-dire la mémoire épisodique sur laquelle je vais revenir. Cette mémoire peut mettre en jeu, comme je vais le préciser, des référentiels spatiaux différents. J'annonce un peu la terminologie. Troisièmement, l'identité et le soi sont tendus entre la mémoire du passé, la prédiction du futur et la création d'un présent, cet aller-retour entre le futur et le présent et le passé. Et enfin, je dirai quelques mots sur la relation avec autrui et l'empathie. Et d'ailleurs, c'est très bien parce qu'on ne s'est pas du tout concerté avec Jean-Pierre, mais je vais essayer de vous dire quelques éléments sur la distinction fondamentale entre sympathie et empathie. Donc la question est aujourd'hui, pour nous, comme l'a fait Jean-Pierre, de voir qu'est-ce que peuvent nous apprendre les neurosciences modernes sur ce concept de soi et sur ce concept de schéma corporel. Alors, je vais vous montrer déjà deux diapos qui, en fait, sont simplement des allusions à des œuvres récentes, puisqu'il y a autour de cette question de la construction du soi une très grande littérature, et je ne peux, bien sûr, qu'évoquer une ou deux idées. Notamment, quand même, le travail qui a été fait par Damasio. Vous voyez que Damasio a distingué un proto-self qui implique des structures dans le cerveau qui sont vraiment des structures qui sont non corticales, qui sont vraiment très, très, très basse, si on peut dire, mais il a dans ce schéma de proposition, comme vous le voyez, tout de suite mis l'importance de la mémoire, c'est-à-dire que le soi et la construction d'un soi unique impliquent nécessairement la mémoire, et en particulier, ce sur quoi je vais revenir, la mémoire autobiographique. Et vous voyez la relation qu'il y a évidemment avec toute l'œuvre de Freud concernant le passé. J'ai choisi aussi cette autre image qui vient non pas d'un neurologue comme Damasio, mais d'un psychologue que j'aime beaucoup, Sean Gallagher, qui appartient d'ailleurs au mouvement de la phénoménologie, qui distingue dans son travail ce qu'il appelle un soi minimum, qui n'a pas d'extension dans le temps, et il a distingué l'agentivité, c'est-à-dire la responsabilité de ses propres actions, et la propriété, et il parle aussi du soi narratif, qui implique l'identité personnelle et la continuité dans le temps. Et je reviendrai un peu plus tard dans mon exposé sur Ricoeur, évidemment, et son expression « soi-même comme un autre ». Et vous voyez que, par exemple, en ce qui concerne le soi narratif, ce qui est intéressant dans ce modèle de Gallagher, c'est qu'il nous dit, après tout, nous pouvons réfléchir au soi de deux façons. Nous pouvons soit penser que le soi, c'est la convergence de toute une série d'activités dans les structures neuronales du cerveau, qui ont été décrites si clairement par Jean-Pierre, et qui vont être unifiées quelque part, y compris, d'ailleurs, pas seulement l'aspect narratif, mais les aspects perceptifs, etc. Mais on peut aussi avoir une conception très différente et dire qu'en fait, il n'y a pas un soi singulier, comme il n'y a pas une mémoire, comme il n'y a pas une attention, comme il n'y a pas une identité, comme il n'y a pas la décision. J'ai passé 10 ans au Collège de France à essayer de disséquer ces termes au singulier, qui tous nous révèlent qu'en réalité, il y a multiples réseaux qui sont impliqués dans les composantes de ces choses. Et donc, il propose l'idée que peut-être qu'en fait, le soi, c'est une propriété distribuée du cerveau. Donc, c'est un débat important aujourd'hui. Je crois qu'il faut être très, très ouvert pour essayer de sortir aussi de certains concepts qu'on a qui sont soi-disant unificateurs, et je vais en parler pour l'empathie. Alors, parlons un petit peu du corps propre. L'idée que nous avons un schéma corporel est, bien sûr, dans la neurologie, la neuropsychologie, depuis 100 ans, et les neurologues avaient d'ailleurs bien distingué entre le schéma corporel et l'image du corps. Il y a une distinction extrêmement importante. Moi, j'aime beaucoup cette image que je voulais vous montrer encore, parce que je l'ai montrée souvent, qui vient du grand neurologue Walter Penfield, qui, chez les patients épileptiques, faisait des stimulations électriques et recueillait leurs sensations, leurs perceptions, leurs commentaires. Et il avait décrit le fait que dans le cortex temporopariétal, ici, à la jonction du cortex temporal et du cortex pariétal, il y avait une structure ou des réseaux de neurones qui sont impliqués dans ce qu'il avait appelé « awareness of body scheme and spatial relationships ». Alors, en français, nous n'avons pas l'équivalent. Les Anglais ont « awareness » et « consciousness ». Moi, je n'ai pas trouvé en français l'équivalent de « awareness ». Mais nous ne pensons pas comme nos amis anglais, c'est bien connu. Et peut-être l'un d'entre vous pourra suggérer la traduction de « awareness ». Enfin, l'idée est que dans cette structure, il y a la construction non pas d'une intégration multisensorielle, mais vraiment d'un schéma interne du corps, d'un double de nous-mêmes. Et que ce double de nous-mêmes est en relation avec les espaces. Et c'est ça un des thèmes principaux de ce que je vais essayer de vous décrire maintenant. Donc certaines aires du cerveau sont cruciales pour la construction de l'unité du corps propre, vraisemblablement celle-là. Ces aires sont aussi concernées par la relation avec l'espace, et je vais essayer de vous proposer qu'elles sont importantes aussi dans la relation avec autrui et par conséquent aussi dans un certain nombre de pathologies de la relation avec autrui. Cette diapositive est compliquée exprès. Elle est compliquée parce qu'elle est un résumé d'un certain nombre de preuves expérimentales récentes qui indiquent à quel point ces structures du cerveau dans le cortex temporoparietal et dans l'aire du STS, sillon temporal supérieur, sont importantes pour la création de ce double et ses relations avec le monde. Ça, c'est l'image initiale de Penfield. L'aire qui correspond, c'est cette aire ici. Et il se trouve que cette aire est ce qu'on appelle le cortex vestibulaire primaire. Vous savez qu'on ne peut pas écouter un exposé de moi sans entendre parler du système vestibulaire, puisqu'on continue à parler des cinq sens, universellement, alors qu'en plus des cinq sens, nous avons l'ensemble de tous les sens de la proprioception musculaire et articulaire et ces capteurs dans l'oreille interne, qui ne sont pas seulement les capteurs de l'équilibre, le système vestibulaire, mais qui sont aussi constitutifs de la référence fondamentale de nos relations avec l'espace et du moi. Et ce cortex vestibulaire, alors je ne comprends toujours pas pourquoi on continue à parler des cinq sens, alors en oubliant finalement tous les sens qui concernent justement le corps propre. Mais c'est ainsi, et ma croisade va continuer pour ça. Donc c'est cette zone-là qui a été identifiée et qui est en même temps la station la plus élevée, la projection du système vestibulaire. Et nous avons, avec nos amis neurologues de Grenoble, Philippe Cahanet, refait des expériences à la Penfield et montré dans un papier publié déjà il y a quelques années que des stimulations chez ces patients épileptiques provoquaient effectivement des illusions de rotation de soi-même dans l'espace. Et ceci est évidemment très proche de ce que nous apprend la neurologie et la neuropsychologie, à savoir l'existence de phénomènes dits d'autoscopie et autoscopie, c'est-à-dire la perception du double. Vous savez que déjà Gilgamesh avait un double, Dostoïevski le décrit, toute la littérature décrit ces doubles de nous-mêmes, et la neurologie aussi, et aussi les sorties du corps, c'est-à-dire le patient qui est couché dans son lit et qui se perçoit comme étant en même temps au plafond en train de se regarder. Ce sont des faits décrits par les neurologues et neuropsychologues, et il est maintenant évident, grâce en particulier aux travaux de l'équipe de Olaf Blanke à Lausanne, que c'est bien cette région-là qui est impliquée dans ces illusions de sortie du corps et des relations entre le corps propre dans sa totalité, et les espaces. Et moi, j'avais été intéressé par le fait que Monica Zilbovicius, il y a quelques années, avait décrit chez les enfants autistes une hypoactivité, justement, dans cette zone-là. Car après tout, pourquoi est-ce que je commencerai à discuter avec les autres, à communiquer, si je n'ai pas constitué mon corps propre, si je n'existe pas et si je n'ai pas les moyens d'interagir avec le monde? C'est une idée, une suggestion. Alors, le fait que ce double de nous-mêmes existe est aussi, bien sûr, montré par les membres fantômes. Cette pauvre dame qui était en Finlande avait un bras qui lui manquait, et elle avait l'impression d'avoir trois bras. Elle était très malheureuse parce qu'au supermarché, quand elle allait avec son panier, elle avait l'impression qu'elle en avait deux ou trois et elle ne payait que pour un panier. Pour vous dire à quel point ces membres fantômes ne sont pas simplement des illusions, mais sont vraiment un double perçu comme étant vivant. Et ce schéma corporel, nous le savons, il est fragile, il peut être désagrégé, qui est induisant la perte de la cohérence du corps propre. Des patients à qui on demande de représenter leur corps peuvent faire cela aussi. Et encore une fois, comment pourrais-je entrer en dialogue avec vous, si vous voulez bien le faire, si je n'ai pas de mon corps une perception unique qui puisse servir de base, non seulement à mon moi, mais aussi à ma relation avec le monde. Un autre exemple des propriétés tout à fait remarquables de ce schéma corporel vient du fait qu'il est modifiable. C'est le paradigme dit de la main de caoutchouc. Le sujet est assis à une table, il a les deux mains posées sur la table, la main droite et la main gauche. On cache la main droite par un écran, donc il ne voit pas sa main droite. Et on remplace la main droite par une main de caoutchouc posée sur la table. Donc il voit sur la table sa main et une main de caoutchouc. Et l'expérimentateur touche en même temps la main réelle et la main de caoutchouc, et au bout de très peu de temps, à condition que ça soit synchrone, le sujet a l'impression que la main de caoutchouc est sa propre main. C'est-à-dire que ce schéma corporel peut s'approprier une main de caoutchouc, une main artificielle. Par conséquent, Ce double, non seulement il est modifiable, mais en même temps il est projetable dans le monde vers des créatures artificielles, et vous voyez pourquoi je vais vous parler des avatars numériques en particulier. Nous avons avec Isadora Olivet, qui est une étudiante brésilienne qui venait du cinéma, fait il y a quelques années une expérience dans ce domaine. C'est une caméra qui prenait une image du bras, pas du patient, mais du sujet. Donc le sujet était là, il manœuvrait un piston, la caméra prenait une image de sa main, et dans le casque de réalité virtuelle, on montrait au sujet sa main en train de pistonner, mais décalée. C'est-à-dire que cette fois, ce n'était pas une main de caoutchouc, c'était une main virtuelle. Et nous nous sommes posé la question de savoir si ce décalage virtuel d'un membre pouvait entraîner un décalage de l'ensemble du schéma corporel, une généralisation. Et effectivement, les expériences sont toujours incomplètes. Les référis ont bien voulu l'accepter, parce qu'ils n'étaient pas trop méchants. Mais effectivement, il y a une généralisation. Donc il y a là des choses extrêmement intéressantes sur les relations qui correspondent d'ailleurs à des idées de Payard autrefois sur les hiérarchies céphalo-caudales, etc. Le fait que ce double virtuel est extrêmement puissant, présent, qu'il faut en tenir compte quand on parle du soi, est aussi donné par des expériences comme celle de Olaf Blanke, mais il y a aussi celle d'Erkson dans les pays du Nord. Encore une fois, on prend une image du sujet avec une caméra placée derrière son dos et on projette cette image dans le casque de réalité virtuelle. Donc il y a une caméra derrière mon dos et dans le casque de réalité virtuelle, je vois un Berthoz virtuel devant moi. Eh bien, si quelqu'un avec une baguette me touche le dos, je vois mon double touché et au bout de très peu de temps, j'ai l'impression que je suis touché là-bas dans mon corps virtuel. Autrement dit, ce double peut se projeter dans le monde, dans des avatars, dans des artefacts, et il est donc projetable dans le monde extérieur, et il peut intervenir par conséquent aussi dans la relation avec autrui, c'est un petit peu l'idée. Et c'est pour ça que je travaille actuellement avec des artistes, comme Claire Sistac, qui s'est immergée dans un monde virtuel. Vous savez que beaucoup de gens, de jeunes, même de travailleurs, dans des usines virtuelles actuellement, utilise ses avatars, qui sont ces créatures artificielles. Elle a eu un avatar qui a tout perdu, et elle m'a autorisé, je précise, à dire qu'elle a fait une quasi-dépression pour montrer à quel point elle s'était identifiée à cet avatar. Et elle a fait un deuxième avatar qui a tout gagné, elle est sortie de la dépression. Et ce qui est très important, c'est qu'ensuite, après l'expérience, lorsqu'elle a, sur l'écran, simplement vu l'image de cet avatar, elle était, disons, triste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement capacité de projeter dans le monde son double, mais il y a sans doute un retour sur soi, et vous pouvez imaginer les conséquences que tout cela peut avoir en matière de psychiatrie sur les jeunes et les enfants qui aujourd'hui se créent un, deux, trois doubles, etc. Et c'est pour ça que nous travaillons sur ces questions. Ça concerne le corps propre, et déjà, vous voyez que les neurosciences modernes nous réservent des choses intéressantes. Il faut passer du corps propre au soi. Alors là, je me suis inspiré des travaux récents de Pascal Piolino, qui est professeur à Paris 5 et qui travaille à la suite de stage de Caen sur les problèmes du vieillissement. Et ces auteurs ont proposé un schéma du soi. En disant le soi, finalement, il y a deux composantes. Une composante épisodique, le soi phénoménologique, que les phénoménologues aiment appeler conscience autonoétique, voyage mental dans le temps, je vais revenir là-dessus dans un instant, revivissant du contexte d'encodage, ce souvenir, c'est les épisodes. Le fait qu'à midi, vous êtes allé déjeuner quelque part, vous avez rencontré quelqu'un, c'est vraiment la mémoire épisodique. Et le soi conceptuel, donc une composante plus sémantique, connaissance sémantique, objectif personnel, intérêt, désir, croyance, les règles, les normes, etc., qui sont plus proches du savoir et du sentiment d'identité. Donc il y a ces deux grandes composantes, et il y a un très grand nombre de données expérimentales aujourd'hui pour essayer de soutenir cette idée, avec des discussions et des débats, évidemment. Par exemple, une preuve de la dissociation épisodique sémantique vient de ce qui s'appelle l'amnésie développementale, un trouble important de la mémoire épisodique avec préservation de la mémoire sémantique. Et ces auteurs ont maintenant identifié, j'ai pas le temps d'entrer évidemment dans toute cette littérature qui est nombreuse et qui est de qualité, et qui cherche à reproduire les réseaux du cerveau qui sont impliqués dans les différentes composantes de cette reconstruction du soi, pas seulement le corps propre, mais aussi dans ses références avec la mémoire épisodique, la référence à soi dans les aspects du cortex préfrontal, la reviviscence dans l'hippocampe, émotion dans l'amygdale, et cette structure extrêmement intéressante qui est le précuneus ici, que le neurophysiologiste Fuster avait appelé l'image du cerveau, l'image de soi. The mind's eye, disait-il. Donc il y a des réseaux qui vont contribuer à cette mémoire épisodique. Par exemple, si on demande à un sujet dans l'IRM de se rappeler le mariage de Pierre, ou si je vous demande de vous rappeler où vous avez déjeuné à midi. Alors, cette mémoire épisodique, ce soi, il doit être situé en plus. Il n'est pas simplement... Il est situé dans un espace. Vous voyez que je reviens sur la notion d'espace. Je vous ai dit, où est-ce que vous avez déjeuné à midi? Dans un lieu, dans un restaurant. Il est situé. Et pour essayer de voir d'un peu plus près cette problématique, avec Pascal Piolino, Mohamed Zawi qui est ici, ingénieur au CNRS, une étudiante, et avec un informaticien aussi, on a construit des paradigmes de navigation dans des villes virtuelles, comme nous faisons par ailleurs pour étudier les référentiels spatiaux, mais en ayant des événements. Par exemple, un camion qui brûle, ou pour être un peu gay, un groupe de jeunes qui dansent, etc. Donc, pour créer de la mémoire épisodique, c'est-à-dire un lien entre quoi, où, quand et les détails. Parce que c'est ça, la mémoire épisodique que nous devons rappeler lorsque nous essayons de nous rappeler notre passé et de l'intégrer dans le présent pour prévoir l'avenir. Alors, ce qui est intéressant, ce sur quoi nous travaillons beaucoup, c'est l'idée qui est déjà dans les textes, à la fois des psychologues, psychanalystes, neurologues, c'est en fait que le cerveau, pardonnez la faute d'orthographe, il manque un U, le cerveau utilise plusieurs cadres de référence spatiaux pour encoder les souvenirs. Nous pouvons nous rappeler nos souvenirs de façon égocentrée, que j'appelle topokinesthésique, c'est-à-dire vous pouvez vous rappeler ce que vous avez fait pour entrer au Collège de France, vos mouvements, votre corps, vous avez tourné à droite, vous avez rencontré quelqu'un, c'est le corps, c'est votre corps qui sert de référence. Mais vous pouvez aussi avoir du Collège de France ou du quartier ici une mémoire allocentrée, topographique, cartographique, globale, sur une carte, sans impliquer le corps propre, en étant libéré en quelque sorte. C'est ce qui permet d'ailleurs de retourner ailleurs et de faire de la géométrie. Et puis vous pouvez aussi prendre quelqu'un comme référence. Vous pouvez, par exemple, me prendre comme référence si vous voulez savoir comment je perçois cette salle. C'est une référentielle hétérocentrée. Alors nous savons maintenant, je n'ai pas le temps de vous le décrire, mais il y a une très grande littérature là-dessus, et nous avons beaucoup de travaux. Nous avons montré qu'il y a une latéralisation à laquelle Jean-Pierre Changeux a fait allusion tout à l'heure, avec le cerveau gauche impliqué plus particulièrement dans la description séquentielle des événements, comme d'ailleurs le langage, la description du langage, et le cerveau droit étant plutôt impliqué dans l'aspect cartographique global de l'appréhension et donc peut-être des souvenirs. Voilà un exemple d'une tâche, je vous fais faire l'expérience. Voilà, c'est un palais virtuel dans lequel on met deux poubelles. J'aime bien cette expérience. Et maintenant, je vous montre une toute petite image du palais, et avec les deux poubelles et une balle. Et on pose au sujet dans l'IRM la question, laquelle des deux poubelles est la plus proche de vous? Je vous pose la question ici, dans cette salle. Laquelle est la plus proche de vous? Et vous allez répondre, la verte, la verte, la verte. C'est une tâche égocentrée de perception dans laquelle votre corps est mis en jeu. Je peux vous demander laquelle est plus proche de la balle, vous pouvez le faire même sur l'écran, mais je peux aussi vous dire laquelle est la plus proche du plus grand mur de la façade. Et comme on ne montre qu'une petite image, il faut reconstruire tout le palais, comme si je vous demande est-ce que cet écran est parallèle à l'avenue des Champs-Élysées. Oui ou non? Voilà. Vous devez faire un changement de référentiel, faire appel à un codage allocentré, comme nous le faisons en permanence, dans les relations aussi avec autrui, dans nos échanges et dans nos souvenirs. Et les expériences qu'on a faites montrent qu'il y a des réseaux différents impliqués dans ces codages. Certains, d'ailleurs, sont très proches de certaines pathologies, comme la négligence, et puis d'autres, comme dans la représentation cartographique, impliquent en particulier l'hippocampe, etc. Et une petite zone du cerveau très intéressante ici, qui s'appelle le cortex rétrosplénial, qui est sans doute impliqué dans le changement de coordonnées, le switch de l'un à l'autre, et vous allez voir pourquoi c'est important. Alors on peut, et c'est ce qu'on a fait à Grenoble, je passe là-dessus très rapidement, utiliser les patients épileptiques qui ont des électrodes implantées très profondes. C'est ce qui est le cas à Grenoble, dans une coopération avec aussi Jean-Philippe Lachaud à Lyon, aller enregistrer l'activité neuronale chez ces sujets. Et vous voyez qu'on construit ce qu'on appelle des neuronales, pas des neurones isolés, mais c'est léger intracrânien. On construit ce qu'on appelle des cartes fréquence-temps. Quand on montre l'image, c'est zéro, pof, on voit une activité dans une bande dite gamma, qui est transitoire dans les différentes conditions. Mais quand on demande au sujet laquelle est la plus proche de la partie la plus longue du palais, comme je vous demandais tout à l'heure, est-ce que cet écran est parallèle à l'avenue des Champs-Élysées ? Le sujet, vous avez remarqué peut-être qu'il vous faut un certain temps pour le faire, et dans le parahippocampe, on voit cette activité prolongée qui, remarquez là, est à peu près de 900 millisecondes, et je vais en parler à propos de la différence entre sympathie et empathie tout à l'heure. Donc on peut faire maintenant de la neurophysiologie chez l'homme pour montrer l'aspect dynamique, c'est ça qui est intéressant, de ces processus. On peut aussi regarder, en utilisant la réalité virtuelle, les questions de référentiel. Et par exemple, nous avons eu la chance ici, au Collège de France, dans mon équipe, de bénéficier, sur le grand écran que nous avons, la capacité de simuler le quartier latin autour du Collège de France, dans la ville de Paris, qui avait été d'ailleurs fait parce que la ville de Paris voulait participer aux Jeux Olympiques. Et ils avaient donc construit tout ça. Nous l'avons bénéficié. Et nous faisons faire à des sujets des trajets dans le quartier autour du Luxembourg. Mais nous avons, grâce à cette simulation dans la réalité virtuelle, et en demandant au sujet ensuite de se rappeler de certains éléments le long du trajet, nous avons comparé ce qui se passe lorsque le sujet circule en première personne, comme vous le faites dans votre GPS en permanence, ou quand vous conduisez la voiture, d'une part, ou d'autre part, lorsqu'ils ont un avatar d'eux-mêmes. C'est-à-dire lorsque c'est eux-mêmes, ils projettent leur double, vous voyez pourquoi j'en ai parlé tout à l'heure, dans le monde virtuel, et que c'est leur double qu'ils contrôlent, qui va naviguer. Et la question, par exemple, qui était posée, était de savoir est-ce qu'il y a un avantage de l'un sur l'autre, et nous avons aussi pu étudier la familiarité. Ce papier est sous presse actuellement, et il montre que, en fait, les meilleures capacités de mémorisation sont obtenues dans cette circonstance-là, lorsqu'on est en première personne et pas lorsqu'on utilise l'avatar, et que, par contre, la familiarité permet plus facilement, c'est presque trivial de le dire, mais il faut le montrer, de construire une représentation cartographique allocentrée. Donc, vous voyez, ce sont des outils qui nous permettent d'étudier aujourd'hui, un peu plus loin, ces questions d'utilisation des référentiels spatiaux. Et c'est intéressant parce que nous avons pu, par exemple, travailler avec l'équipe de Marie-Louise Krebs et Isabelle Amado à l'hôpital Sainte-Anne, et avec un étudiant venu d'Allemagne, Steven Langraf, tester le paradigme du palais, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur un petit échantillon de ces patients, et montrer que ces patients schizophrènes avaient une capacité intacte de résoudre le problème « laquelle des deux poubelles est la plus proche de vous ?». Ils avaient une perturbation dans la capacité de dire laquelle était la plus proche du mur, mais surtout, nous avons vu à quel point ils ont une difficulté de faire le switch, c'est-à-dire de passer de l'un à l'autre, comme vous faites en ce moment, quand vous passez de votre perception à là, ou éventuellement vous rappelez vos souvenirs, ce que vous allez faire quand vous allez partir. Notre cerveau, en permanence, joue sur ces systèmes de référence, et j'ai proposé aussi, d'ailleurs, même si je ne suis pas médecin, donc avec beaucoup de modestie, l'idée que la manipulation des référentiels spatiaux est un trait transnosographique qu'on va retrouver dans un certain nombre de pathologies neurologiques ou psychiatriques. Par ailleurs, vous pouvez remarquer aussi que le fait que nous ayons des stratégies différentes, cognitives, pour résoudre ces problèmes, suppose qu'éventuellement nous inhibions l'une par rapport à l'autre. Et je mentionne, même si je n'ai pas le temps de vous en parler ici, le travail qu'on a fait avec le professeur Olivier Houdet, qui a son laboratoire en face, spécialiste du développement de l'enfant, dans lequel nous avons regardé ensemble le développement chez l'enfant de cette capacité d'utiliser les référentiels ego et halo, d'autant plus que son laboratoire travaille de façon absolument remarquable sur ces questions, justement, des inhibitions, on en parlait tout à l'heure dans la discussion, de la capacité, c'était votre question, monsieur, du cerveau d'inhiber. Et Olivier, qui est là, je crois, dans la salle, a montré dans des tâches logiques cette chose absolument étonnante dans un papier Nature, que dans une tâche logique perceptive, au début, l'activité est dans le pariétal, et il y a des erreurs, et puis, à un moment donné, et au cours du développement, on voit l'activité arriver dans le cortex frontal ou préfrontal, il y a moins d'erreurs, ce qui suppose une inhibition des stratégies précédentes. Donc l'inhibition est une chose fondamentale, je vais revenir pour là. Alors je passe assez rapidement sur la différence entre les sexes, c'est un sujet fondamental, politiquement difficile pour certains, mais je rappelle qu'il y a des livres sur Sex and Cognition, des différences fondamentales dans le traitement de l'espace entre les hommes et les femmes, sur la rotation mentale, etc., des données de neurologie, et que ces différences sont aussi sous l'influence des hormones. Le même test spatial chez une femme ne donne pas le même résultat à différents moments du cycle menstruel, et de la même façon, il ne donne pas le même résultat chez nous, le matin et le soir, et l'été et l'hiver. Et nous avons plusieurs expériences, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, qui ont été faites, y compris d'ailleurs dans un supermarché, parce qu'on nous reproche souvent aussi d'aller regarder ces choses-là au laboratoire, y compris dans un supermarché, pour étudier ces différences de stratégie entre les sexes dans l'utilisation des repères ou les stratégies cognitives. C'est un sujet extrêmement intéressant parce que je vous rappelle que l'anxiété spatiale, l'anorexie, toute une série de pathologies psychiatriques qui impliquent le soi et les relations avec autrui ne s'expriment pas de la même façon chez les garçons et les filles. Donc c'est un sujet scientifique à prendre avec beaucoup de précautions, mais extrêmement important. Alors, on va encore franchir une dernière étape avant de parler de l'empathie. Si j'ai encore un peu de temps. 10 minutes.
Comment ?
10 minutes. Un peu moins. C'est la mémoire pour le futur. 8 minutes. 9. Un peu moins. Donc je passe sur ce que Merleau-Ponty dit. Et je voudrais... Attendez, parce que là, je me suis trompé. Donc Merleau-Ponty disait, la mémoire ne serait pas contraire de l'oubli, mais elle est à l'intersection des deux, à l'instant où revient le souvenir. Et il écrit, le souvenir explicite... Et l'oubli ont deux modes de notre relation oblique avec un passé. Évidemment, ça nous fait penser aux travaux de Husserl, qui avait tellement insisté sur ce qu'il avait appelé la constitution protensio-rétentionnelle, sur lequel, avec Jean-Luc Petit, nous avons discuté dans le bouquin « Phénoménologie et physiologie de l'action », qui est cet aller-retour entre présent et passé permanent. Et les neurosciences modernes s'intéressent à cette chose-là, sur la relation. Nous avons d'ailleurs, avec Claude Debrus, récemment édité un livre de discussion fait à la Fondation Hugo du Collège de France avec un certain nombre de collègues sur anticipation et prédiction du geste au voyage mental. Ce mot de voyage mental désigne aujourd'hui cet aller-retour permanent que nous faisons entre le passé et le présent et le fait que l'identité, ce n'est plus une photo, c'est donc l'identité est à prendre en compte dans cette dynamique. Et ce qui m'a beaucoup intéressé récemment, ce sont les travaux récents de l'équipe de Chaster, en particulier, mais d'autres équipes, qui disent qu'il y aurait dans le cerveau, d'abord des structures semblables pour la préparation des scénarios futurs et de la mémoire du passé, mais surtout des modules semblables, qui permettraient justement de faciliter ce travail mental. Autrement dit, il faut voir aujourd'hui le soi et sa constitution comme un processus dynamique permanent. Et je vais maintenant... Alors, il y a aussi les confabulateurs, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas prendre, et c'est une forme d'inhibition, monsieur, ils ne peuvent pas prendre dans le passé ce qui est pertinent. Un malade est à l'hôpital et il dit « je dois aller voir une dame donner le biberon à mon bébé », mais son bébé a 30 ans. Dans la corbeille des mémoires du passé, ces patients ne peuvent pas prendre ce qui est pertinent pour le présent. Nous devons inhiber tout cela pour arriver à faire ça. Alors, je termine par l'empathie. Parce que le soi, Ricoeur l'avait défini dans son livre, soi-même comme un autre, suggère, et là ça a sauté ici, suggère que l'identité est en fait, l'altérité est fondamentale pour l'identité. Et je vais terminer en insistant sur le fait qu'aujourd'hui, il y a ce que j'ose appeler une imposture, concernant la désignation de l'empathie. On peut acheter une machine à laver empathique. L'autisme, c'est l'empathie. La schizophrénie, c'est l'empathie. Tout est empathie. En réalité, il faut distinguer deux modes fondamentaux qui avaient été vus par les philosophes allemands entre Mitfühlung, Sympathie, avec sentir, la sympathie, processus spatial et temporel par lequel nous ressentons la même chose qu'autrui au même moment. Et l'empathie, processus beaucoup plus complexe dans lequel nous devons nous mettre à la place d'autrui, dans le corps d'autrui, peut-être avec notre double. Donc la sympathie, c'est la contagion émotionnelle, le fait que si la maman fait un, le bébé fait un. Si la maman sourit, le bébé fait. C'est un mode fondamental d'interaction. Le système miroir de Rizzolatti, qui pour moi, il n'est pas content quand je dis ça d'ailleurs, reste dans ce domaine de l'interaction, de la contagion émotionnelle, etc. Mais on éprouve l'émotion d'autrui sans changer de point de vue. Et un exemple, c'est le contact par le regard. Dès que j'établis un contact avec le regard avec l'un d'entre vous, il y a une activation, comme ça a été montré dans cette très belle expérience, non seulement du fusiforme qui identifie les visages, mais aussi de l'amygdale, qui met en jeu tout le cerveau des émotions. Et j'ai écrit ici une idée qui m'est venue. Freud a choisi d'éviter le contact par le regard avec le patient, en le tournant. Et en même temps, nous savons que l'expression corporelle des émotions implique immédiatement une émotion dans autrui. Et là aussi, au fond, Freud a choisi d'éviter l'expression corporelle des émotions du patient en le couchant sur un lit pour lui éviter de faire ses émotions. Je pense à ça en passant avec beaucoup de modestie. Donc l'empathie consisterait à se mettre à la place de l'autre avec un changement de point de vue, en utilisant son corps virtuel, en inhibant éventuellement la perception. Car si je veux savoir ce que pense vraiment le professeur Antoine Compagnon de ce que je dis maintenant, il me sourit, mais en réalité il n'est pas très content parce que je dépasse un peu mon temps. Il faut donc que j'inhibe la joie que j'éprouve par sympathie et que je ressente ce qu'il perçoit réellement. Et nous avons un modèle de ça que nous avons élaboré, et je vais me permettre de vous le faire parce que je l'ai fait à 10 500 personnes, même les professeurs au Collège de France. Je vais vous demander de mettre tous vos bras comme ça. Sans tuer votre voisin, vous allez faire comme moi. Alors attention, vous avez nommé 12 000 sujets. 1, 2, 3. Eh ben non. Ah non, j'ai le bras droit en bas. Vous êtes resté à votre place bien tranquillement. Ah ben, je suis un physiologiste du mouvement, hein. J'espère qu'ils ont filmé. Et donc, vous ne pouvez pas ne pas faire des mouvements. Voilà. Et nous avons pris ça comme modèle, avec d'ailleurs une philosophe, Bérangère Thiriot, qui a fait sa thèse là-dessus, et Blanqueux. Nous avons fait l'EEG de ce qui s'est passé lorsque vous avez compris que vous étiez en sympathie, vous n'avez pas changé de point de vue. Et nous avons montré qu'en réalité, ces deux modes d'interaction avec autrui implique des réseaux différents. La sympathie, ce que vous avez fait pour la plupart d'entre vous, implique des réseaux, d'ailleurs c'est intéressant, qui sont impliqués dans l'autoscopie. Et ce que nous pensons être impliqué pour être nécessaire pour l'empathie, en dehors de l'aspect d'émotion, implique d'autres réseaux qui d'ailleurs correspondent à ceux de l'autoscopie. Et nous avons montré que chez des patients schizophrènes, il y a des déficits particuliers dans cette capacité de changer de point de vue. Et nous travaillons actuellement dans une coopération avec les pédopsychiatres à Paris, à Poitiers et en Italie, sur des modèles, vous voyez, y compris avec des psychanalystes d'ailleurs, François Villa et Soisy Gauthier, sur ce modèle pour étudier chez les enfants autistes le développement de cette capacité. Et nous avons, je termine par là, plusieurs types d'expérimentations actuellement pour essayer de regarder ces questions d'identité utilisant des miroirs doubles, utilisant des musées virtuels, c'est fait avec l'École nationale des arts décoratifs, dans lesquels on crée des avatars qui interagissent. Et aussi, si vous venez au Collège de France dans mon équipe, puisque j'ai plus de laboratoire, mais le Collège a bien voulu me laisser un statut d'équipe, eh bien vous pourrez voler dans un monde virtuel avec votre avatar. C'est-à-dire en prenant une image de vous dans le dos, et vous verrez en train de voler comme on le fait quand on rêve. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui des modèles faits dans des cadres extrêmement interdisciplinaires pour essayer de regarder ces questions du soi. Et je termine là-dessus en vous remerciant de votre attention.
Eh bien, c'était tout à fait passionnant et savoureux. Moi, j'ai trouvé ça assez freudien, vérité.
C'est mon cher, je vous en laisse la responsabilité.
Non, ça me rappelait certaines de tes distinctions comme mémoire épisodique et mémoire sémantique, le fameux article de Jacobson sur les deux sortes d'aphasie, la métaphore et la métonymie, la condensation et le déplacement, des choses comme ça.
Merci. Mon ignorance sur la Non, sur son œuvre est telle que Olivier Houdet, qui est ici un jour, m'a dit quand même, Berthoz, il serait bon que vous lisiez un peu les œuvres de Freud. Il m'a fait offrir par les puffs les œuvres complètes. Ah. Et je ne reconnais pas, Olivier, que j'ai fait autre chose que brouter.
Ces deux types d'aphasie, c'était comme les deux types de mémoire.
Oui. Merci. Bon,
mais il y a sûrement des questions plus sérieuses à poser.